Il s'appelle Daniel Rerio. Non, ça n'est pas un chanteur de charme des années 50. Daniel Rerio, eh bien, c'est la nouvelle star des labos. Il s'agit du poisson zèbre, un animal qui possède de nombreux atouts pour les scientifiques qui le prennent comme modèle car il est petit, transparent, prolifique et bon marché. Et avec un génome très proche de celui des humains, il est un incomparable objet de science pour la biologie du développement. Ce poisson est par exemple capable de régénérer sa moelle épinière endommagée. Oui, mesdames et messieurs, le poisson zèbre. Et donc dans le dossier de l'émission et toutes vos questions dès maintenant sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui le boom des émissions de méthane dans l'atmosphère.
Oui, une explosion des émissions en 2015 qui inquiète les scientifiques, mais aussi une mauvaise nouvelle pour le climat. On tente de comprendre d'où vient le méthane en trop dans l'atmosphère avec la chercheuse Marielle Saunois.
Et puis à la fin de l'émission et pendant toute cette semaine, je vous offrirai la boîte de jeu de la Tête au Carré qui vient de sortir pour les 10 ans de l'émission. Je vous poserai une question tout à l'heure, juste avant 15h. Soyez à l'écoute. C'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de cette Tête au Carré, préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le poisson zèbre, donc, à l'honneur dans quelques minutes dans le dossier de l'émission. Mais pourquoi donc consacrer une émission à un petit poisson comme ça? Eh bien, pour en parler, vous allez tout savoir grâce à nos biologistes du développement, Jean-Stéphane Joly et Stéphanie Bouffard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Jean-Stéphane Joly, pourquoi avez-vous consacré toute votre vie au poisson zèbre?
Et par passion. Donc, pourquoi? Parce que j'ai pensé assez tôt que cet animal était intéressant avec son œuf transparent. Il m'a séduit. Et à l'époque, c'est vrai que ça paraissait quelque chose d'intéressant pour faire la biologie du développement.
Ouais.
Depuis, on sait que effectivement, on connaît presque tout le trajet des cellules dans l'embryon du poisson zèbre.
Vous avez été un des tout premiers Français justement à vous y intéresser. Stéphanie Bouffard, vous êtes en troisième année de thèse. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ce drôle de poisson en particulier?
Alors moi j'ai découvert le poisson zèbre lors de mon premier stage en Allemagne et je l'ai trouvé aussi, comme j'en sais, très fascinant.
Ah c'est Jean-Cé?
Jean-Cé, oui. Jean-Stéphane.
Jean-Cé, c'est son directeur quand même. Hein. C'est cool dans votre labo. Hein.
Bah oui, il faut bien, dans les labos, il faut bien que ça soit cool.
Donc Jean-Cé, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Non mais comme lui, je trouve ça très fascinant et moi je fais de la biologie du développement et c'est un modèle qui est très facile à utiliser pour étudier le développement justement parce qu'il est transparent.
Voilà, Jean-Cé et Steph sont donc nos invités cet après-midi dans le dossier de la Tête au Carré pour découvrir évidemment l'intérêt de ce poisson pas tout à fait comme les autres et toutes les promesses de ce drôle d'animal avec vos messages sur le site de l'émission.
La science de l'environnement en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et nous allons moins rire avec le sujet qui arrive, puisqu'on parle rarement du méthane quand on s'inquiète du réchauffement climatique, et pourtant, il serait largement temps de s'en soucier.
Analyse de l'air pour évaluer la concentration en méthane.
Une vache laitière produit par jour jusqu'à 200 litres de gaz méthane. C'est autant, par exemple, que ce que dégage quotidiennement une Range Rover.
Voilà, c'était le témoignage d'un agriculteur anglais pour parler donc du méthane, le deuxième gaz le plus réchauffant de l'atmosphère. Et cette étude internationale publiée ce matin qui montre que les émissions sont en pleine explosion et paradoxalement, les scientifiques sont incapables d'expliquer pourquoi. Bonjour Marielle Saunois.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à l'Université Versailles-Saint-Quentin, chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes une des auteurs principales de cette étude et puis dans ce studio, bien sûr, pour parler de ce sujet comme tous les lundis autour de l'environnement. Hervé Kempf, bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Notre partenaire de reporter.net. Hervé, d'abord, au vu de cette étude, il semble important, voire urgent, de ne pas oublier le méthane dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Et non, puisque c'est un gaz à effet de serre en fait très important, le second après le CO2, le gaz carbonique. En plus, son abondance a considérablement augmenté comme le CO2 depuis la révolution industrielle, ça a été multiplié par 2,6 fois dans l'atmosphère depuis cette date et on atteint maintenant, on va le voir, 1835 parties par milliard de molécules de CH4, son petit nom scientifique.
C'est alors, beaucoup pour avoir un ordre d'idée, parce qu'on se rend pas bien compte forcément comme ça d'emblée.
C'est très peu. Enfin, Marielle Saunois l'expliquera mieux que moi, mais c'est très peu. Sauf que c'est une augmentation importante, plus 10 points depuis 2014 en une seule année. Par ailleurs, le gaz méthane a une potentielle de réchauffement beaucoup plus important que le CO2 sur un horizon de 100 ans, 30 fois plus important de potentiel de réchauffement que le CO2. Alors très rapidement, d'où vient-il? Eh bien, il vient de la décomposition sans oxygène de la matière organique. Alors ça va se faire dans les marais, dans les mangroves, dans les rizières. Ça va se faire aussi dans les systèmes digestifs des bovins. Et puis aussi dans les décharges, et même les termites sont un contributeur pas négligeable.
Allons bon.
Autre source importante, l'extraction et le transport de l'énergie fossile, notamment le gaz de schiste, on y reviendra peut-être, et puis la combustion de la biomasse. Alors, toutes ces émissions représentent plus de 500 millions de tonnes par an de méthane. Deux tiers sont de sources anthropogéniques, c'est-à-dire que les deux tiers proviennent de l'activité humaine. Mmh. Et des développements récents, mais Madame Saunois va sans doute nous en parler, le développement du gaz de schiste aux États-Unis depuis le début des années 2000, et puis l'élevage qui a considérablement augmenté dans le monde depuis, là aussi, une quinzaine d'années. Et la riziculture semble se développer aussi fortement en Asie.
Alors, Marielle Saunois, la question que je voudrais vous poser en premier, c'est pourquoi est-ce que c'est plus compliqué de faire le bilan du méthane dans l'atmosphère que de celui du carbone ?
Parce que le méthane a beaucoup plus de sources que le dioxyde de carbone, et aussi que ces sources sont plus diffuses que celles du dioxyde de carbone.
Les conclusions, là, pour 2014-2015, on parle d'une explosion. Est-ce qu'en termes de chiffres, vous pouvez nous donner un ordre d'idée de cette explosion ?
Alors, non. On parle d'une explosion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation très forte des concentrations de méthane. Sans doute due à une forte augmentation des émissions, mais là, on ne peut pas donner de chiffres encore. Il est trop tôt.
Ça veut dire Mathieu ?
Marielle Saunois, vous êtes d'accord en tout cas avec les principales sources d'émissions dont parlait Hervé Kempf il y a un instant ?
Oui, bien sûr.
Oui.
On a un cas qui est très particulier avec le méthane, c'est qu'on a des émissions qui sont naturelles et des émissions qui sont humaines. Est-ce que vous êtes quand même capable de dire si les explosions qu'on voit sont liées à l'activité des hommes ou à un changement dans la nature ?
Alors, vu que ces augmentations ont lieu sur plusieurs années d'affilée, on va plutôt avoir tendance à mettre en cause les activités humaines plutôt que la nature qui, elle, voit des variations à l'échelle de quelques années. Donc on met un petit peu plus en cause les activités humaines.
Est-ce qu'il y a un moyen de tracer les émissions de méthane dans l'atmosphère pour savoir d'où elles viennent, géographiquement ou même en termes de chimie ?
Alors oui, on peut utiliser des modèles qui nous permettent de retracer l'origine des masses d'air et de là de relier s'il y a une activité anthropique particulière. Ou aussi, il y a des inventaires en fait qui font des statistiques sur les rizières, le nombre de ruminants présents et qui pourraient émettre du méthane sur l'exploitation des énergies fossiles. Il y a des statistiques aussi qui permettent d'avoir des chiffres. Mais c'est très incertain. Enfin, on a, par rapport au CO2, beaucoup plus d'incertitudes sur la quantité de méthane émise dans l'atmosphère.
C'est tout le problème d'ailleurs, Hervé Kempf.
Oui, alors on sent que vous êtes très prudente et vous avez raison en tant que scientifique de l'être, mais quand même, est-ce que dans la mesure où ce problème de méthane apparaît très important, est-ce qu'il y a des moyens d'agir à court terme pour réduire ces émissions et est-ce qu'elles pourraient être efficaces là aussi à court terme ?
Donc oui, il y a des moyens d'agir, il y a déjà des solutions qui sont mises en place. Sur les énergies fossiles, en fait, c'est beaucoup de dégazage du méthane, soit au moment de l'extraction ou pendant la distribution. Donc on peut limiter déjà les fuites qui existent sur les réseaux et essayer de récupérer ce méthane pour le réemployer. Donc c'est une première solution de ce côté-là.
Sur l'élevage, par
concernant
exemple.
Concernant les bovins, peut-être ?
Et sur les bovins, donc il y a des... On tente aussi une modification du régime alimentaire des bovins qui permettrait de réduire la fermentation. Et dans les grosses fermes aussi, ils essayent de faire du biogaz en fait et d'utiliser ce biogaz en tant qu'énergie pour réchauffer soit leurs installations, soit autre chose.
Est-ce que sur la fonte justement des sols gelés en Sibérie par exemple, est-ce que là on arrive à faire des projections sur l'avenir pour essayer d'estimer la quantité de méthane qui pourrait être relâchée ? Parce que c'est un des grands points d'inquiétude à l'heure actuelle.
Oui, c'est effectivement un grand point d'inquiétude. À l'heure actuelle, on ne voit pas un effet significatif de la fonte des sols gelés et d'une émission conséquente de méthane.
Ah bon ? Donc pas de chiffres pour l'instant alarmants.
Non, pour l'instant, c'est c'est assez mineur comme source.
Dernière question, Axel.
Oui, si on se projette dans l'avenir, on connaît les scénarios pour l'avenir concernant le CO2 et ces 2 degrés de réchauffement. Est-ce que les courbes du méthane suivent un peu la même augmentation?
Alors, les courbes de concentration du méthane, et c'est ce qui nous alarme un petit peu, depuis ces 2 dernières années où l'augmentation, où le méthane a augmenté 2 fois plus vite que depuis 2007 à 2013, on suit la trajectoire du scénario moyen le plus pessimiste.
Ce qui nous amène
à peu près à environ plus 4 degrés.
Donc ça veut dire que l'urgence se tient dans ces 4 degrés alors?
Oui, enfin, ça veut dire aussi que l'urgence se tient dans le fait qu'il ne faut pas que les concentrations de méthane continuent à suivre une telle trajectoire.
On comprend bien qu'il faut faire quelque chose,
Mathieu. Et qu'il faut faire quelque chose.
Hervé Kempf, donc, un dossier que vous allez traiter dans reporter.net.
Oui,
hein, autour de ces questions qui sont nombreuses encore. Hein.
Absolument, c'est clair, mais qu'on suit depuis quelques temps et on est quand même content que ça arrive un peu sur la place publique et qu'on commence à pouvoir faire de la vraie pédagogie sur ce méthane.
Merci Marielle Sonneau. Vous êtes enseignante à l'université Versailles-Saint-Quentin et donc chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci beaucoup Hervé, à la semaine prochaine. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une mine de charbon géante qui va être construite en Australie à proximité de la Grande Barrière de Corail. Malgré 6 ans de protestations des écologistes, la société Adani, c'est son nom, a déclaré en fin de semaine dernière que les travaux du chantier évalués à 16 millions de dollars allaient commencer d'ici 2017. Le projet qui contient également la construction d'une ligne de chemin de fer de plus de 189 km sur la côte et l'exploitation d'un port proche de la zone protégée semble faramineux. Le charbon acheminé par bateau, surtout à destination de l'Inde, va contribuer à la pollution des eaux de la zone, mais va également participer au réchauffement climatique global. Une aberration évidemment pour de nombreux Australiens qui continuent de protester. Les macaques ont une anatomie adaptée pour la parole. La seule raison pour laquelle ils ne parlent pas se trouve dans l'évolution de leur cerveau, selon les chercheurs de Princeton, à l'origine de cette découverte importante. Il faut remettre en cause l'origine anatomique de la parole humaine, car si nous sommes les seuls primates à posséder le langage, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir le produire. En étudiant les mouvements de l'appareil vocal du macaque, les chercheurs concluent que le larynx, la langue et les lèvres ont une mobilité quasi identique à la nôtre et que rien ne les empêcherait physiquement de pouvoir parler. Ils ont même été capables de synthétiser sommairement la voix qu'auraient les macaques s'ils parlaient anglais. Nous vous laissons écouter justement cette phrase. Elle est très courte. Voilà, c'est ce que dirait, pourquoi pas, un macaque. Would you marry me? Traduction, voulez-vous m'épouser? Donc une phrase reconstituée par ordinateur. Et puis enfin, des plantes qui poussent à plus de 6000 mètres d'altitude. Il s'agit d'un nouveau record. 6 espèces végétales découvertes en Inde sur les pentes du mont Choukuleux et qui étonnent les chercheurs. Contrairement aux mousses et aux algues qui peuvent se maintenir en haute altitude, les plantes vascularisées sont très rares en haute altitude, dotées d'un métabolisme antigel basé sur le sucre. Elles peuvent survivre à des températures inférieures à 0 sans que leurs cellules ne soient abîmées. Selon les auteurs indiens, ces espèces seraient poussées à gravir de plus en plus les pentes des montagnes, entraînées là encore par le réchauffement climatique qui déplace donc les zones de survie vers les sommets. C'était le macaque.
Do you see people being led by the righteous hand? Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. Show me. Lives being lost on the sacred land. In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Show me. Are free to stand up for themselves.
ourselves and the promises made. Stop gathering dust on the shelves. Show me. Show me. Show me. Show me. Well, I hear you out there when you say what you have to say. I know how you feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands, show me, show me, show me. Show me.
Tommy, la voix de Neil Young sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et le poisson zèbre, un des animaux fétiches des laboratoires en ce moment, il est au cœur de notre dossier pour mieux faire connaissance avec lui cet après-midi. Pourquoi justement il intéresse autant les chercheurs? Et pour en parler, je suis avec les biologistes du développement Jean-Stéphane Joly et Stéphanie Bouffard. Jean-Stéphane Joly, vous êtes l'homme qui a ramené le poisson zèbre en France. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, chef de l'équipe CASBA à Neuropsy, c'est l'Institut Neuro Paris-Saclay du CNRS et l'Université Paris-Saclay. Et vous êtes coordinateur d'une infrastructure qui s'appelle Avenir TEFOR. Qu'est-ce que oui. c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites là-dedans?
Alors TEFOR, on met à disposition de nos collègues poissons zèbres des laboratoires publics ou privés, des outils pour travailler, des ressources, des animaux. On les distribue, donc c'est un ensemble d'ingénieurs qui se sont groupés pour faire ça de façon satisfaisante et de façon intégrée.
Donc c'est une plateforme de, voilà, de c'est service une plateforme pour intégrée. Les laboratoires. Et Stéphanie Bouffard, vous êtes actuellement en troisième année de thèse dans l'équipe justement de Jean-Stéphane Joly, avec un projet de thèse qui repose sur l'étude du développement du cerveau du poisson zèbre, car ce poisson a un cerveau tout petit.
Contrairement à ce que pensent les gens, il a un cerveau tout de petit, taille à peu près normale.
C'est ça, voilà. Mais qui vous intéresse évidemment,
oui, pour, qui est très intéressant.
Pour quelle raison alors?
Alors en particulier, moi j'étudie une structure du cerveau qui s'appelle le toit optique, qui est la structure qui va recevoir les afférences de la rétine, donc qui va traiter les images visuelles. Et ce toit optique, il est très intéressant par sa manière de se développer, parce qu'il va, se développer en proliférant de la périphérie jusqu'à l'intérieur du toit optique, ce qui est très intéressant.
Bon, on va en parler avec vous tout à l'heure, on va détailler un petit peu ces recherches. Juste un mot, parce que vous êtes en troisième année de thèse, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette discipline de la biologie du développement, justement?
Justement.
Et comment un jour vous êtes tombé sur le poisson zèbre?
Alors déjà, je suis tombée sur la biologie du développement lors de mon tout premier stage en licence, où j'ai eu une superviseure qui m'a vraiment fait rêver avec cette discipline.
C'est vrai?
Oui, mais je suis fascinée par le développement et comprendre comment un organisme se développe à partir d'une cellule jusqu'à un organisme complètement fonctionnel, c'est pour moi fascinant. Et le poisson zèbre, c'est lors de mon premier stage à l'international en Allemagne, où j'ai découvert ce petit poisson qui est très facile à utiliser, qui est transparent à l'état embryonnaire, et qu'on peut faire plein de choses, en particulier la microscopie, ce qui est très joli à voir.
Ouais. Et c'est joli à voir aussi ?
Oui, ouais. C'est extrêmement joli.
Qu'est-ce que vous voyez dans votre microscope alors ?
Bah, nous, on utilise des molécules fluorescentes, donc c'est des molécules qui, sous le microscope, vont être de différentes couleurs, si on essaye de parler simplement. Et en particulier, quand on regarde le cerveau, on peut marquer différentes zones du cerveau et c'est extrêmement joli à voir.
Ouais, Jean-Stéphane Joly, c'est sa transparence justement à ce poisson qui en fait un de ses principaux atouts.
Oui, vous l'aurez compris, notre exploration à nous, là, c'est pas 6000 mètres d'altitude, c'est très très dans le tout petit là. Et donc, on utilise effectivement des microscopes. Et là, l'avantage, c'est que cet animal est très transparent. Et il comporte des cellules qui sont très semblables à nous, des cellules qui composent le cerveau, qui composent le cœur. Mmh. Donc on peut étudier tout cela.
Ouais. Alors donc on a des points communs entre le poisson zèbre et l'humain, c'est pour ça que ça intéresse les chercheurs. Du point de vue du génome, donc c'est ça, on partage beaucoup de gènes en commun.
Donc oui, 70% de gènes en commun.
Et ça c'est beaucoup dans un rapport animal.
C'est beaucoup, oui, puisque c'est un vertébré donc aussi, il a des os, une colonne vertébrale comme la nôtre, des organes, le cœur, qui sont développés de façon assez similaire. Donc par rapport au modèle classique qui était par exemple la mouche, c'est vrai qu'on a un peu plus de choses communes à regarder avec l'homme.
Ouais.
Mais il faut voir aussi que tout simplement sa transparence nous permet de comprendre le vivant et de bien comprendre la biologie cellulaire et de mettre en face des gènes effectivement à quoi servent ces gènes dans les cellules.
Donc ça c'est très pratique aussi d'un point de vue simplement de la méthode pour un chercheur de travailler sur un animal transparent. Il y en a d'autres d'ailleurs dans le monde vivant comme ça qu'on peut étudier en transparence ou pas ?
Oui, on a beaucoup d'animaux transparents, c'est toujours la même idée, échapper aux prédateurs. Donc dans le monde marin, vous avez énormément d'animaux qui ont des œufs transparents, l'oursin, l'acidie, voilà. Donc ça, c'est tout simplement un des grands avantages. L'autre avantage, c'est que l'œuf est pondu. Donc par rapport à un mammifère, on n'a pas besoin d'aller le chercher dans le ventre de la mer et de tuer la mer, donc économie d'animaux.
Ouais.
Et un avantage certain, des propriétés biologiques originales, on en reparlera, la régénération par exemple.
Absolument. Alors, il y a plusieurs questions, il y a plein de questions d'ailleurs qui arrivent autour de cet animal. Valérie nous dit justement, son écologie est mal connue, quels sont les prédateurs de ce petit poisson, plutôt avantagé donc de par sa transparence dans le milieu marin ?
Dans le milieu, il vit dans les rivières.
À quel endroit d'ailleurs ? À quel endroit ? Plutôt en Inde, c'est ça ?
Birmanie, Inde, voilà, c'est dans ces endroits-là. Écoutez, les prédateurs, ça c'est extrêmement général. Ça peut être des grenouilles, ça peut être tout ce qui peut. Vous pouvez imaginer manger un petit poisson de 3 cm de long, des poissons plus gros aussi, tout simplement.
Oui, donc ça c'est vraiment sa physionomie, 2-3 cm.
2-3 cm et d'autres espèces extrêmement rigolotes à regarder potentiellement qui continuent à être transparentes à l'âge adulte. Là, on a un poisson zébré donc qui n'est plus transparent. Mmh. On a par contre en laboratoire généré des animaux plus transparents d'ailleurs par mutation. On a des danios parériaux qui sont encore plus petits et plus transparents, qui ont réussi à rester transparents à l'âge adulte.
Ouais. Stéphanie Bouffard, nous on va parler de danios rériaux, hein.
Oui.
C'est ça. C'est le nom donné donc à.
C'est le poisson zèbre.
À ce poisson,
rériaux,
voilà. Le poisson zèbre, zebrafish.
Hein, zebrafish en anglais.
Comme le disent les Anglais, effectivement. Larry nous dit 70% donc au niveau du génome. Ça me paraît aussi sérieux et pertinent que les 95% annoncés avec le bonobo ou. Alors 70%, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu, demande Larry.
Ben écoutez, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on peut travailler sur pas mal de réseaux génétiques communs, d'interactions. Ce qui reste à très important à étudier et dont on a une moins bonne idée, c'est si, par exemple, dans le cadre de la recherche biomédicale, si les mutations qu'on trouve chez l'homme, qui sont responsables de maladies, sont bien aussi présentes et on peut les reproduire chez le poisson.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose de plus complexe, de savoir si les positions à l'intérieur de ces gènes qui sont changées dans les maladies humaines sont bel et bien aussi changeables dans le poisson parce qu'elles sont conservées.
Ouais.
Donc ça nous fera dire, là, si on fait une étude plus précise, d'autant plus que là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des modèles de maladies en reproduisant dans le poisson, au même endroit d'un gène, d'une protéine, un changement qui correspond à un changement dans une maladie humaine.
Voilà, on en citera évidemment plusieurs hein, au cours de cette émission, autour, entre autres, par exemple, des maladies neurodégénératives, mais pas seulement. Stéphanie Bouffard, quand vous étudiez justement cet animal, vous avez toujours, derrière le coin de la tête, l'idée que l'humain vous intéresse avant tout ?
Oui, bien sûr. Justement, moi, lors de ma thèse, j'étudie, on pourra en reparler un peu après, mais j'étudie les ribosomes, qui sont des petites structures qui vont fabriquer les protéines. Mmh. Et il existe des maladies qui s'appellent les ribosomopathies, qui sont des maladies qui touchent, qui sont pas létales complètement, et qui touchent des protéines, justement, des ribosomes, et qui sont spécifiques. Et donc, justement, quand nous, on étudie les ribosomes dans le poisson, on ramène toujours ça aux ribosomopathies et à ce qui est connu chez l'humain.
Oui, ça paraît incroyable hein, pourtant de transposer comme ça un tout petit poisson à l'être humain.
Oui, justement, c'est des choses que le grand public ne connaît pas, mais il y a des grandes ressemblances et des grandes similarités au niveau du génome qu'on peut utiliser et qu'on exploite tous les jours au laboratoire.
C'est un bon pondeur, le poisson zèbre ?
Ah oui, une femelle, elle peut pondre 300 œufs facilement, minimum, par semaine.
Par
On les utilise par semaine, oui.
C'est ça.
Moi, j'ai déjà eu des femelles qui ont pondu 800 œufs, 900 œufs en une fois.
Ouais.
Donc, c'est très
très productif.
Hein. Oui, c'est très productif et c'est très pratique si on veut comparer et si on veut avoir un grand nombre d'embryons à étudier.
Allez, bienvenue dans le pays des poissons zèbres grâce à nos invités. Poissons d'eau douce, donc, sur France Inter avec vos messages franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque.
J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de salte, il ne nous fallait qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. À la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. Boum, 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 boum. Reine, t'es pas la mon compte. Reine, t'es pas la mon compte. De mille ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Je serais ta que non, crois-moi, je serai ta Chita, mon amour. Je serai ton Alexandrie, pourquoi pas ton Magnon, là pour toujours. 2000 ans que j'attendais ça, matin et soir et le midi, mon amour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plus que trop chic. Comme toi, reine, t'es pas la mon queen. Reine, t'es pas la mon queen.
Si me lo decían hace 2000 años, no lo creía. Cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés. Estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años, no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París.
Ok, mais tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. Reina, de Palermo, Queens. Et Reina, de Palermo, Queens.
Palamo Queens, Benjamin Biolay dans cette tête au carré consacrée donc à ce modèle pour les chercheurs, le poisson zèbre, avec Jean-Stéphane Joly et Stéphanie Bouffard qui sont biologistes du développement. Alors, beaucoup de questions, il faut tout de suite l'aborder, hein, cette question-là justement de la souffrance animale, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'interrogent justement. Par exemple, Jacqueline nous dit: que pense ce poisson torturé par ces heureux chercheurs? Il est vrai que les animaux ne sont pour eux que de faciles sujets d'expérimentation, oubliant que même un poisson est sensible et souffre. Lorsque Elisabeth nous dit: est-il tenu compte dans les expériences de la capacité de souffrance de cet animal ou est-il utilisé comme un objet? Merci d'aborder ce point de vue qui n'a rien de ringard et de ne pas le laisser glisser sous le tapis. Ben non, on va en parler tout de suite. Alors, qui veut commencer? Stéphanie Bouffard, justement?
Oui, alors justement, la question de la souffrance, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Il faut savoir que, justement, contrairement à ce que pense le grand public, c'est plus comme dans les années je ne sais combien, on n'est pas là pour torturer...
Au siècle dernier,
voilà,
hein, bon.
On n'est pas là pour torturer les animaux du tout. Et il existe des codes d'éthique européens qui nous dit un peu comment gérer la souffrance animale. Mmh. On a des règles à suivre qu'on est obligé de suivre et qui c'est très surveillé.
Lesquelles par exemple
Par exemple,
en
lorsqu'on
mots
utilise, alors déjà il faut avoir une formation d'expérimentation animale pour utiliser, pour s'occuper des poissons, pour les utiliser lors de nos expériences. Et lorsqu'on doit faire quelque chose sur le poisson, on a des anesthésiants à utiliser, on a des pratiques à utiliser. Et on est assez souvent surveillé sur ce genre de choses. Et on doit aussi faire des demandes auprès d'une institution en France pour utiliser, pour faire tel type d'expérience. En fonction de l'expérience qu'on veut faire, on doit faire des demandes éthiques qui doivent être validées avant d'utiliser le poisson.
Donc tout est relativement encadré. Vous, Stéphanie Bouffard, vous êtes sensible à cette question-là en tant que chercheuse ?
Bien sûr. Moi, je garde toujours l'idée que j'utilise un animal. Et pour moi, chaque animal que je vais utiliser, je fais très attention. Après, moi, je fais du développement. Donc en général, je n'utilise que des embryons. Les adultes, je ne les sacrifie pas ou voilà, je ne les utilise pas. Mais dans tous les cas, quel que soit l'animal que j'utilise, je fais très attention à ça.
Jean-Stéphane Joly, comment on évalue la douleur d'un poisson zèbre, par exemple? Quelles sont les manifestations de cet animal lorsqu'il souffre? Alors, comment on peut le savoir?
Eh bien, effectivement, c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup d'estimations de la douleur chez les mammifères, chez la souris, par exemple. Chez le poisson, on va aussi avoir une grille de douleur, très clairement. Le poisson bouge beaucoup moins, par exemple, dans certains cas, selon les espèces.
Ah, c'est sa façon de manifester sa douleur, justement.
On a des signes de stress tout à fait objectifs. Ouais. Je tiens d'ailleurs à remercier Mathieu Simion parce que il faut savoir qu'on a des techniciens dans les laboratoires qui passent un temps considérable à faire ces demandes. À chaque nouveau protocole que l'on fait chez le poisson, on soumet ce protocole à un comité d'éthique et on obtient une autorisation. Donc ça représente un travail très important et on est extrêmement vigilant là-dessus, extrêmement vigilant à utiliser le moins possible d'animaux. D'ailleurs, on a mis au point... pour faire ces petits animaux modifiés, là, on a mis au point des logiciels qui permettent d'économiser le nombre d'animaux. En étant beaucoup plus performant, en trouvant les meilleures molécules, on va énormément économiser le nombre d'animaux.
Alors justement, Catherine demande: comment est fabriqué un poisson zèbre transgénique? Parce que c'est bien de ça dont on parle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un poisson OGM?
Alors, dans certains cas, c'est un poisson OGM. Stéphanie a parlé des poissons avec des molécules fluorescentes. C'est ce qu'on appelle la green fluorescent protéine, une protéine de méduse. Et effectivement, cette protéine, on la met parfois pour observer les cellules. C'est un outil de recherche absolument incroyable qui est apparu il y a une vingtaine d'années, qui permet, dans un animal vivant, de tracer les cellules.
Ça a révolutionné quand même, hein, la façon
dont
on peut travailler
sur
la biologie du développement.
En biotechnologie, on peut parler de cette révolution-là, on peut parler de la PCR, donc l'amplification de l'ADN, qu'on connaît mieux peut-être dans le grand public. Et là, on parle d'une troisième révolution à l'heure actuelle, c'est celle des molécules CRISPR-Cas9.
Qui sont moins connus, mais qui sont aussi une modification. Aussi une modification du vivant.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un OGM différence entre un OGM et un CRISPR-Cas9, par exemple?
Alors, on peut obtenir des OGM avec un CRISPR-Cas9. On peut très bien introduire des gènes aussi avec le CRISPR-Cas9. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est des coupures extrêmement ciblées, extrêmement précises.
Qu'est-ce qu'on coupe?
Alors, on coupe l'ADN. C'est des molécules extraordinaires. Le génome humain, par exemple, en culture de cellules, 3 milliards de paires de bases, et on coupe quasi parfaitement au bon endroit. Donc, c'est des molécules qui sont apparues de recherches sur les bactéries qui infectaient les plantes. Et c'est encore une exploration, une autre exploration. Et à là, on va générer une mutation, c'est-à-dire un petit changement de l'ADN qu'on appelle d'une seule paire de bases, extrêmement précis. Et ça va reproduire des mutations qui arrivent tous les jours dans le poisson, tous les jours chez nous, qui sont souvent, bien souvent naturelles. Donc on va pouvoir faire ici des choses qui ne sont pas, au sensu stricto, des OGM, dans le sens introduction d'un gène exogène. On va pouvoir faire des choses extrêmement propres, précises.
C'est ça, c'est la précision vraiment qui va caractériser cette, voilà, cette méthode pour aller vraiment là où on a envie d'extraire un gène.
Par rapport à avant, on balançait de l'ADN comme ça, en injectant avec une pipette dans l'œuf de poisson, par exemple. On savait absolument pas où l'ADN allait. Là, on coupe assez précisément à un endroit. Et donc, moi, je défends beaucoup l'idée que dans ce cas-là, ce n'est pas un OGM et qu'il faut qu'on définisse auprès du grand public qui nous écoute aujourd'hui beaucoup mieux ces choses-là pour qu'ils aient moins peur et qu'ils comprennent bien l'intérêt de ces choses-là.
Alors ces méthodes-là, on est d'accord, elles sont applicables au monde animal comme au monde végétal.
Voilà,
avec
tout à
CRISPR,
fait.
On peut agir sur tout ce qu'on veut quasiment.
Voilà. Disons que dans le temps, le monde végétal, si on en vient là, on faisait des irradiations UV, des choses extrêmement lourdes, ou bien les OGM qu'on n'aime pas des années 80. Mais là encore, on va pouvoir faire de façon beaucoup moins chère et beaucoup plus précise des choses plus intéressantes. Il faut que le grand public en prenne conscience plutôt que de continuer à parfois à rejeter en masse.
Ben, il faut expliquer surtout. C'est pour ça que
il faut expliquer
que
beaucoup.
Les chercheurs est-ce que vous êtes étonné du peu de réactions pour le moment face à CRISPR-Cas9 au regard de ce qui s'est passé avec les OGM par exemple?
Un peu de réaction. Aux États-Unis, le CRISPR-Cas9 est beaucoup plus dans la vie de tous les jours. C'est dans la série Arrow, dans la série X-Files. Donc, tous les scénaristes s'en sont emparés. C'est vrai que là, pour le moment, on a moins d'impact dans le grand public.
Et pourtant, il y a autant de questions éthiques qui sont soulevées.
Et pourtant, c'est une technologie qui va changer toute notre vie, qui va changer. Et donc, néanmoins, je ne veux pas faire d'angélisme. Il peut y avoir des risques d'utilisation chez l'homme. Et il faut qu'on en discute. Et il faut absolument que le grand public s'empare de ce débat, et les questions sont plus que justifiées.
Exactement, parce qu'on peut imaginer des manipulations catastrophiques.
Voilà, on va relancer toutes les manipulations éventuellement sectaires et des choses comme ça qu'il y avait. Donc prudence sur beaucoup de choses, prudence aussi pour la dissémination dans l'environnement. Donc sur certains points éthiques, il ne faut pas plaisanter, il faut en parler. Mais il ne faut pas diaboliser non plus.
Stéphanie Bouffard, quelle est votre position, vous, là-dessus, en tant que jeune chercheuse aussi? Ça m'intéresse de vous entendre sur ces technologies du vivant qui posent beaucoup de questions, quand même, parce qu'elles sont récentes.
Oui, bien
sûr. On a peu de recul encore là-dessus. On a envie de savoir ce qui se passe dans les laboratoires, ce que vous manipulez, justement, vous, en tant que chercheur.
Alors moi, je suis un petit peu du même avis que Jean-Stéphane. C'est des modifications très ciblées, d'une ou deux paires de bases, qu'on contrôle, justement, comparé à ce qu'on faisait avant. Là, on a une manière de contrôler les modifications qu'on va faire dans le génome. Pour moi, du coup, c'est une avancée, et aussi en termes d'OGM, alors qu'on appelle ça un OGM ou non, ça c'est
on modifie un organisme de toute façon.
On modifie un organisme de toute manière. Et après, ce qu'on fait en recherche aussi, il faut dire, c'est que les organismes, ils sont conservés dans les laboratoires, ils ne sont pas relâchés dans la nature. Donc pour le moment, ce qu'on fait avec le CRISPR-Cas9, c'est pas du tout quelque chose qui pourrait toucher l'environnement ou ce genre de choses, parce que c'est dans les laboratoires. Et c'est très contrôlé.
Jean-Stéphane Joly, on modifie les quelques gènes d'un organisme.
C'est la vue européenne des choses. On modifie, donc c'est un OGM. Alors qu'aux États-Unis, la question est qu'est-ce qu'on obtient? Et non pas comment on l'a obtenu. Et donc là, même si on modifie, on obtient un mutant naturel. Et on peut expliquer, par exemple, que l'on va prendre une mutation qui est présente dans une race de vache, par exemple, et la passer dans une autre. On peut faire des choses qui ne sont pas contre nature avec ces technologies-là. Et donc aussi, ce qu'on fait avec nos modèles d'animaux, qui est vraiment très positif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à ces technologies-là, maintenant, de pouvoir reproduire une mutation très précise comme celle qui a lieu chez l'homme pour en faire un modèle d'étude.
On va donner un exemple justement très précis, la sclérose latérale amyotrophique. Parmi les nombreuses pathologies qu'on peut étudier autour du poisson zèbre, cet extrait d'Allo Docteur, justement un exemple autour de cette pathologie et le travail des chercheurs.
Les chercheurs sont parvenus à créer un poisson zèbre avec le même gène défaillant que chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.
a développé un modèle de poisson zèbre où on a diminué aussi le niveau de ce gène et on a pu montrer qu'il y a des défauts moteurs dans ce modèle et qu'on peut utiliser ce modèle pour mieux comprendre cette nouvelle forme génétique de la maladie.
Voilà, Jean-Stéphane Joly, un exemple parmi tant d'autres, on va en évoquer d'autres dans un instant. Là, à l'instant, donc la sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est ça en fait, on étudie les gènes chez ce poisson pour pouvoir imaginer aussi ce qui se passe chez l'homme.
Voilà, c'est souvent très difficile, la boîte noire actuelle, c'est de comprendre comment on a une modification dans un gène qui finalement a un effet au cours de la vie de la personne très tardif. Et comment ça se fait là? C'est le challenge actuel. Et je tiens à dire que ça ne se comprend qu'en utilisant d'ailleurs des animaux. Parce que les boîtes de culture, même s'il y a beaucoup d'espoir, et c'est extrêmement intéressant pour plein de choses.
On est obligé de passer
par l'animal. On est évidemment, pour la physiologie, pour tous ces problèmes neuro, obligé d'utiliser des animaux. C'est le pied aller qu'on doit, si on veut comprendre la vie. Là, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas comprendre, contrairement à ce qui se dit parfois, sans modèle animaux.
Mais est-ce qu'on peut étudier toutes les maladies ou pas avec ce poisson?
Alors, pas du tout. Il faut pas survendre la chose. Il reste totalement important d'utiliser la souris pour certaines choses.
Ça reste vraiment le modèle animal de prédilection.
Très clairement, on va pouvoir avec cet animal en particulier décrypter des processus cellulaires précis.
Vous parlez de quel animal là? Du primate ou
Non, je parle du poisson zèbre. Très clairement, on ne va pas pouvoir reproduire des modèles de maladies chez ce poisson aussi bien qu'avec des primates, par exemple.
Stéphanie Bouffard, quelles maladies sont privilégiées avec le poisson zèbre en particulier?
Les maladies du cœur, par exemple. Après, moi, ce que je voudrais, la chose sur laquelle je voudrais appuyer, c'est que, à mon sens, le poisson zèbre donc, est important, mais c'est une première étape. Il faut toujours revalider. Alors, quand on parle de maladie, on parle de traitement ou de compréhension de la pathologie. Et donc, il faut toujours valider ça, au moins chez le mammifère, parce que le poisson zèbre, il est très bien, mais ce n'est pas un mammifère. Donc, il faut valider ça. Donc,
à chaque fois, c'est systématique, justement, dans vos travaux. Il y a déjà une première observation sur les mécanismes du poisson zèbre, mais ensuite, il y a forcément, avant de passer au stade humain.
Bien sûr, parce qu'en fait, les modèles animaux sont complémentaires. Donc, on peut faire des choses sur la mouche, sur le poisson, mais après, il faut passer à d'autres modèles pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. Et il y a des choses qui ne sont pas similaires entre le mammifère et le poisson. Donc, il faut passer chez la souris, au moins, voire à terme, chez le primate, pour comprendre bien et tester des médicaments, ce genre de choses.
Et tout ça demande du temps.
Bien sûr.
On voit le temps de cette recherche, entre le départ du poisson zèbre jusqu'à un jour peut-être une application pour soigner un humain. Ce sont des dizaines d'années au bas mot, avec parfois des échecs en cours de route, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant, juste après PJ Harvey et les messages auxquels vous répondez sur le site de La Tête au Carré.
Fortune, PJ Harvey.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Dossier consacré donc à ce drôle d'animal, le poisson zèbre, avec Jean-Stéphane Joly et Stéphanie Bouffard, tous les deux biologistes du développement, l'élève et son directeur, on va dire ça comme ça, avec les messages des auditeurs sur le site de l'émission. Alexandre demande combien de poissons dans votre élevage à peu près et que deviennent justement les poissons modifiés, Jean-Stéphane Joly ?
Eh bien, plusieurs milliers de poissons, c'est un des avantages du poisson, on les élève... Donc par la petite taille en assez grand nombre. Mmh. Les poissons modifiés ne sortent jamais des élevages. Mmh. On a des systèmes d'échappement, d'anti-échappement, pardon, extrêmement...
Pour qu'ils évitent de se faire la malle, c'est ça ?
Et aussi des accès réglementés, extrêmement réglementés. Mmh. Tout ça est aussi soumis à la loi et ça ne rigole pas du tout.
Racontez-nous, puisque vous êtes quand même le pionnier en France du poisson zèbre, comment s'est passée l'arrivée de ce poisson dans les labos européens ? Parce qu'au départ, c'était pas gagné. Hein.
Oui. Le pionnier, je sais pas. Le pionnier, par exemple, de la microscopie, c'est Philippe Herbommel, qui est maintenant chef d'unité à l'Institut Pasteur, qui a passé de nombreuses nuits, là, je l'ai aidé un peu au départ, à faire ça, et qui a vraiment acquis une originalité extrême.
C'est vous qui l'avez repéré aux États-Unis, quand même, ce poisson.
Voilà, repéré. J'ai été aux États-Unis, effectivement, au début de ma thèse. J'ai eu la chance d'avoir un directeur qui a eu l'intelligence de m'envoyer là-bas. Et on peut pas parler du poisson zèbre sans Eugene, là, les hippies qui sont en Oregon et qui étaient remontés quelques dizaines d'années avant.
Pourquoi ? C'est quoi le lien entre les hippies et le poisson zèbre ?
Je ne sais pas, mais il y a sûrement une volonté d'être original et de ne pas avoir peur. Et là aussi, c'est vrai, quand j'ai ramené mon poisson, je faisais un peu rigoler.
Personne n'en voulait ?
Pas personne n'en voulait, parce que j'étais très soutenu par des chercheurs curieux, dont François Jacob, dans lequel je faisais ma prix Nobel. Donc on avait, oui, mais le grand public, peut-être plus encore qu'aujourd'hui... où les gens, mes collègues, c'était un peu de la rigolade.
Oui, c'est ça.
Maintenant qu'on est passé à plusieurs milliers de laboratoires qui travaillent sur le poisson zèbre et que c'est le deuxième modèle en laboratoire.
C'est ça, avec des bourses qui financent beaucoup de recherches dans ce domaine. Alors, il y a eu une actualité récente aussi autour de la moelle épinière avec ce poisson. Et là, on voit aussi tout l'intérêt, évidemment, pour l'humain, Stéphanie Bouffard. On en a parlé d'ailleurs dans la Une de la Science. On a pu, parce que, en fait, ce poisson, il faut expliquer, est capable de réparer tout seul sa moelle épinière endommagée ?
Oui, alors il est capable de régénérer plusieurs parties de son corps, comme le cœur, la moelle épinière, une partie du cerveau. Alors moi, je suis pas spécialiste en régénération, je vais pas vous mentir. Peut-être que Jean-Stéphane, tu sais un peu plus sur la moelle épinière.
Ouais, sur ce processus.
Elle veut pas parler du travail de sa voisine, Aurélie.
Ah non, oui, j'ai ma collègue.
Qui fait une thèse là-dessus, là, qui... donc étudie, elle, la régénération dans le cerveau. Et donc, on est sur la trace de cellules assez discrètes chez le poisson, mais qui maintiennent leur prolifération à l'âge adulte.
On a bien compris comment ce poisson pouvait réparer sa moelle épinière aujourd'hui.
Bien compris, on comprend toujours, plus on comprend, moins on comprend, mais oui, on commence à avoir des traces de quelles sont les cellules impliquées, par exemple.
Et ces cellules, on les possède également chez l'humain ?
Alors voilà, c'est ça qui est très intéressant comme question, c'est les possède-t-on et si on les possède, sont-elles dormantes et a-t-on la capacité de les réactiver avec différentes méthodes ? C'est clairement là un des espoirs.
Oui.
Ou bien, si elles n'existent pas, de les réimplanter éventuellement après des passages en culture de cellules.
Ouais.
Donc c'est ça la médecine régénérative. Mais comme vous l'avez dit avant, c'est des années de travail entre le moment où on voit quelque chose chez le poisson et on va pouvoir l'utiliser chez l'homme.
Mais enfin, il y a quand même des promesses intéressantes.
Ah, il y a plein de promesses chez le cœur. On a des très bonnes équipes en France, à l'équipe de Chris Jopling, par exemple, sur la régénération du cœur. On a effectivement plusieurs équipes qui travaillent sur la régénération du système nerveux aussi.
Allez, écoutons le professeur Étienne-Émile Beaulieu. C'était en 2013 et lui aussi a des choses à nous dire sur le poisson zèbre.
Ce que je faisais ce matin, c'était avec mes collaborateurs, Dr Chambaud, Dr Tauque et d'autres, nous écrivions un article que nous allons publier incessamment ce mois de juillet où nous sommes, ou au mois d'août, enfin quand les journaux scientifiques le publieront, où nous montrons les premiers résultats chez l'animal vivant de suppression, disons, de grandes altérations provoquées par les altérations de la maladie d'Alzheimer. Et cet animal, ça va vous faire sourire, peut-être ça peut terminer notre conversation de façon un
Je
peu plus gaie.
À tout.
Le poisson zèbre.
Alors bon, le poisson zèbre.
Zèbre devient, dans ce domaine où il n'est pas, nous avons une idée pour aller plus vite, parce que le poisson zèbre a un système nerveux qui se développe très vite.
Forcément.
Alors que les souris altérées qu'on utilise, que j'ai utilisé, qu'on utilise encore, les souris modifiées génétiquement, ça prend un an ou deux ans, donc nous sommes pressés.
Merci beaucoup, Émile-Étienne Beaulieu.
Voilà, et c'était dans l'émission de France Culture, une fois pour toutes, Étienne-Émile Beaulieu. Jean-Stéphane Joly, un mot sur Alzheimer, donc le poisson zèbre pourrait servir aussi à
Alzheimer,
comprendre
les mécanismes. Oui, le poisson a de la mémoire, effectivement, ça peut paraître bizarre, mais il pense et il a de la mémoire, donc on est très conscient de ça, et à tel point que c'est devenu un sujet de recherche sur le poisson aussi. Et en particulier par une équipe japonaise au Riken Institute Okamoto, dans lequel on a un collègue de neuropsy qui fait un postdoc, Merlin Lange. Et juste pour en dire un mot, effectivement, l'idée est de conditionner les poissons par différentes méthodes. Et plusieurs jours après, ils se rappellent encore, ils réagissent mieux, en fait. Et ça, ce qui est très joli chez le poisson, encore une fois, en termes de fluorescence, c'est qu'on va pouvoir voir avec des molécules fluorescentes, une fois encore, les neurones qui permettent la mémoire.
Stéphanie Bouffard, pour terminer très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps, j'en suis désolé, vos travaux sur le cerveau alors du poisson zèbre, c'est pour répondre à quelles questions principalement ?
Alors moi j'étudie donc le taux optique, comme je vous ai dit, qui est cette structure très intéressante, et j'étudie en particulier les cellules souches, donc qui sont des cellules qui ont la capacité de se diviser, de s'auto-renouveler et de se différencier en différents types de neurones. Et la question c'est de comprendre comment ces cellules souches peuvent s'auto-renouveler et quelle est la régulation de ces cellules souches dans le taux optique du cerveau du poisson zèbre.
Et pour l'humain, ça pourrait servir à quoi alors ?
Bah alors après, l'étude des cellules souches pour l'humain, c'est comme disait Jean-Stéphane, la régénération, l'étude de la prolifération cellulaire, et ça ouvre des fois beaucoup de choses.
Ah bah y a du boulot alors.
Voilà,
merci beaucoup et bonne thèse à vous, Stéphanie Bouffard et Jean-Stéphane Joly, pour vos explications sur le poisson zèbre. Merci à tous les deux. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vida.
Affaires sensibles avec vous dans un instant. Le thème ?
Aujourd'hui, la course à la voile du Fastnet en 1979. 19 morts, rendez-vous compte, 19 marins pris dans une tempête épouvantable. Un vrai cauchemar. Nous recevrons Bernard Rubinstein, journaliste et passionné de voile. Il a couvert ce Fastnet en 1979.
Et dans un instant, je vous offre la boîte de jeu de la tête au carré.